BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto, de retour en plateau aujourd'hui avec mes invités pour parler de fiscalité, de réglementation MiCA, de la suite de la réglementation, c'est-à-dire ce qui nous attend plus tard. Des cours évidemment et des dernières actus avec Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. Bonjour. À vos côtés, Alexandre Lourimi, partner chez Orwell. Bonjour Alexandre. Et Julie Bader est avec nous également, avocate chez De Gaulle Florence. Bonjour Julie. Bonjour. Ravie de vous avoir tous les trois. Vous savez que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur ce secteur crypto à cette adresse crypto au singulier at bfmbusiness.fr. Vous êtes les bienvenus. On répond à vos questions toutes les semaines. Le club BFM Crypto, c'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les cours, Enzo. Je vous regarde, évidemment. Mais on est même à 62 000 dollars aujourd'hui. Pire semaine de 2026.
Et oui, effectivement, pour le coup, on oscille maintenant entre 60 000 et 63 000. Alors, il y a deux indicateurs absolument importants à regarder cette semaine, deux catalyseurs qui vont être tout d'abord demain les données de l'inflation américaine, le CPI, directement lié aujourd'hui, je pense, à tout cette, au dérisking, au fait que les investisseurs, de manière générale, ont souhaité un petit peu retirer du risque de leur portefeuille au profit de d'autres actifs dont on parlera juste après. Et puis, les taux de la Banque Centrale Européenne qui, aujourd'hui, fin de compte, drive un petit peu ces éléments de l'inflation. Donc, à surveiller impérativement, puisque une augmentation des taux signifierait généralement, encore une fois, une nouvelle baisse normalement sur des actifs risqués tels que Bitcoin.
La question qu'on se pose à chaque fois que ça atteint des plus bas, c'est jusqu'où ça peut descendre.
Alors aujourd'hui, ça bouge beaucoup et pas tout à fait sur des raisons liées proprement dites à la macroéconomie de l'univers crypto. Et tout d'abord, on a d'abord une sortie de capitaux très importante. Alors Michael Saylor estime à 400 milliards le départ sur les 800 milliards de la capitalisation boursière du marché total des crypto-monnaies sur les 6 derniers mois vers des investissements liés à l'intelligence artificielle, notamment. Donc beaucoup de d'institutionnels qui sont sortis vers ces sociétés donc de croissance, et également deux nouvelles thématiques qui sont apparues plus récemment avec la guerre au Moyen-Orient, qui sont la défense et l'énergie. Un petit peu comme des actifs anti-inflationnistes. En plus de ça, donc on a toutes ces grandes IPO qui arrivent, donc l'IPO de SpaceX qui pour le coup attire beaucoup de nombreux investisseurs, donc plus de entre 1750 et 2000 milliards de dollars. Je rappelle, capitalisation boursière de Bitcoin, c'est 1,250 milliards à peu près, donc une seule société plus valorisée que Bitcoin, une nouvelle société. Et puis la dernière chose, on va dire, ce sont les résultats qui déçoivent un petit peu le marché donc sud-coréen, qui est un petit peu le poumon de tout cet écosystème IA via son indice COPSI, qui a plongé juste hier de 9%, alors qu'il reprend des couleurs aujourd'hui. Mais en fait, les attentes liées à toute l'infrastructure IA ont un petit peu déçu en termes de revenus, ce qui fait que les investisseurs se désinvestissent un petit peu puisqu'on aura moins de revenus futurs. Et donc, c'est ce qui explique peut-être aujourd'hui un peu plus une stabilité et un retour sur certains actifs un peu plus risqués comme Bitcoin.
Moi, je vois que vous ne faites pas les oracles. Vous avez bien raison, d'ailleurs. Il ne faut pas le faire dans cette émission. Il y en a un qui a pris des risques, c'est Antoine Andréani, qui souvent, on parle des 44 000 dollars comme plancher, finalement, pour ce cycle-là. Vous pensez que ça pourrait descendre jusque-là, vu les circonstances?
Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde. En fait, je pense qu'aujourd'hui, shorter très clairement Bitcoin est extrêmement risqué. On est sur une période pour laquelle, aujourd'hui, les flux commencent à se stabiliser un petit peu. Ça va dépendre des indicateurs que j'ai mentionnés, je pense, en début de session. Il faut rester prudent. Je pense qu'effectivement, aller chercher peut-être un 60 000, un 55 000 dollars peut être possible. En revanche, il y a un paquet de monde à 50 000. On peut voir déjà les flux positionnés sur ces prix-là. Donc, avant de toucher 40, il faut toucher 45, il faut toucher 50. Et là, il y a un paquet de monde qui est dans les starting blocks pour acheter. Donc, je pense que oui, 60, mais 44, ça me paraît assez bas. Mais on n'est jamais à l'abri et dans les cryptos, ça arrive souvent.
C'est bien que vous redisiez que c'est le bon moment d'acheter et non pas comme on voit souvent quand ça baisse comme ça, que c'est la fin de Bitcoin. Il faut revoir un petit peu cette tablette, effectivement, quand on pense comme ça. On reparlera des actus tout à l'heure avec vous, Enzo, de fiscalité. Alexandre, depuis quelques jours, fin de la période déclarative, juste pour revenir sur ce calendrier-là, on peut encore quand même un petit peu corriger ce qu'on a dit, ce qu'on a déclaré et ce qu'on a signé pour le fisc.
Oui, tout à fait, Sandra. En fait, c'est terminé la semaine dernière pour l'essentiel des départements. Mais ça va rouvrir cet été jusqu'au mois de décembre et il sera toujours temps de corriger. Ce que j'ai conseillé moi à tous mes clients, c'est de déclarer, même si la déclaration n'est pas tout à fait exacte. C'est bien mieux de déclarer quelque chose d'inexact que de rien déclarer du tout, quitte à corriger, affiner, améliorer la déclaration après.
On parle notamment de quoi? Des comptes à l'étranger?
Les comptes à l'étranger, qui sont en fait un sujet fondamental avec Dacuit, dont on va peut-être parler.
On va parler de Dacuit, oui.
Qui est le gros morceau et qui génère pas mal de sanctions en fait quand le fisc constate des manquements et bien sûr les plus-values quand il y en a eu, puisque bon, là, on parle des cours un peu bas, mais ça n'empêche pas de voilà, on a toujours un an de décalage avec la fiscalité, donc.
Alors moi j'ai eu une bonne surprise cette année, c'est que quand même les documents fournis par les plateformes pour déclarer ses sorties et ses entrées, et Julie acquiesce, ont été quand même beaucoup plus clairs cette année que les années précédentes, parce que en face de chaque opération il y avait la ligne qu'il fallait remplir sur la déclaration d'impôts. Il n'y avait pas ça l'année dernière, Alexandre.
Ah, en fait les plateformes essayent de simplifier la vie de leurs clients.
Ça, c'est une simplification concrète.
Et ça, c'est pas mal. Mais bon, les données ne sont pas toujours fiables à 100% parce que le régime fonctionne à l'échelle globale du portefeuille. Donc, toute plateforme confondue, une seule et même plateforme ne peut pas avoir l'information exacte. Donc, quand on n'a qu'une plateforme, c'est très utile et c'est exact. Quand on en a plusieurs, il y a forcément un décalage avec la réalité, même si ce décalage est parfois toléré en cas de contrôle, quoi.
Oui, les équipes du fisc, elles sont prêtes aux cryptos? Elles avancent aussi vite que la techno?
Peut-être pas aussi vite que la techno, en disant qu'on pourrait être sympa. Elles avancent, ça c'est sûr. Elles avancent, elles se forment. Mais bon, à l'échelle nationale, ce sera impossible d'avoir des vérificateurs formés correctement sur tout le territoire. Donc il y aura toujours un décalage qui parfois profitera aux contribuables, parfois lui sera plutôt préjudiciable.
Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel avenir pour la fiscalité crypto? Parce que tous les ans, ça évolue de façon quand même assez notable. Est-ce qu'elle va encore se renforcer? Est-ce qu'on va la rendre plus attractive? Il ne faut pas oublier qu'on est en année présidentielle, il va peut-être y avoir des propositions d'un côté ou de l'autre. Je connais un candidat, j'ai déjà dit, sur ce plateau, qui propose notamment une flat tax sur les cryptos qui est bien moins élevée que celle qui est proposée aujourd'hui. Dans quel sens ça va aller sur la fiscalité, Alexandre?
Je pense que politiquement, il n'y aura pas de grosses mesures, parce qu'en fait, vu la composition de l'Assemblée nationale, c'est impossible vraiment de faire adopter quelque chose de très marqué politiquement. Par contre, il y a beaucoup de discussions sur l'amélioration technique du dispositif, puisque les autorités comprennent que c'est quand même assez compliqué, comme vous l'avez vu pendant la période fiscale. C'est assez compliqué et c'est une complexité qui est incohérente vu le niveau de démocratisation. En fait, tout un chacun ne peut pas faire ce type de formule sur un tableau Excel. Et donc là, les discussions qui sont en cours seraient d'un côté la simplification et de l'autre de l'adaptation aux nouveaux usages. Et là, je pense aux stablecoins, puisque les stablecoins ont désormais un statut juridique un peu à part de celui des cryptoactifs volatiles. Et une des mesures qui est souvent discutée, c'est la fin de cette neutralité fiscale en cas d'échange entre un cryptoactif et un stablecoin. Il est envisagé de rendre imposable la vente d'un cryptoactif contre un stablecoin.
Vous m'étonnez beaucoup, là, effectivement. C'était une zone grise, hein, jusqu'ici. Effectivement, tout le monde en profitait. La mise en conformité MiCA prend fin. On va en parler avec vous, Julie. Vous êtes spécialiste du sujet. Mais il faut maintenant préparer, Alexandre, la mise en conformité de Dacuit. Moi, je croyais qu'elle était déjà entrée en vigueur, la Dacuit, en janvier 2026.
Oui, techniquement, la directive et les textes d'application sont entrés en vigueur au 1er janvier 2026, mais il y a une sorte de petite période de tolérance pour se mettre en conformité. Les premières déclarations vont être envoyées par les prestataires en juin 2027 au plus tard, et avant le 31 décembre 2026, ils vont devoir recueillir tout un tas d'informations. La plupart sont déjà à disposition dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, mais il y aura des informations supplémentaires à recueillir obligatoirement avant le 31 décembre 2026. Donc là, tous les utilisateurs vont se retrouver avec un dilemme quand il va falloir renseigner son numéro fiscal pour continuer à utiliser la plateforme.
Alors là, effectivement, oui, c'est en permanence l'utilisateur qui doit se mettre dans les starting blocks en premier, hein.
Exactement. Et puis avec le contexte sécuritaire, c'est-à-dire que donner davantage d'informations encore à une plateforme, c'est quelque chose qui est légitimement une crainte chez détenteurs de crypto.
Oui, on en a parlé, Julie, vous vouliez dire quelque chose?
Non,
pas du tout. Sur la fiscalité, j'ai vu tout à l'heure cette petite idée à nouveau sortie du chapeau de la Commission européenne qui pensait aussi à une taxe sur les cryptos, mais une taxe européenne.
Oui, mais ça c'est...
0,1%.
Ouais, c'est une belle idée. Il y a eu beaucoup d'idées de taxes européennes, mais aucune taxe n'avait
Comment
le jour.
Comment ça, c'est une belle idée?
Non, mais ça restera toujours au stade de l'idée. Parce qu'en matière de fiscalité directe, en fait, il faut une unanimité des États membres pour créer une taxe. Et donc, c'est très peu probable que ce soit le cas, parce qu'on est dans un marché harmonisé, mais avec beaucoup de dumping fiscal, même si c'est plus ou moins dissimulé. Et donc, je vois mal réunir autour de la table la France, l'Allemagne, Malte, les États baltes, se mettre d'accord sur ce type de taxe. Et d'ailleurs, il y a le précédent de la taxe sur les transactions financières, qui était un projet au début des années 2010, qui était porté par la France initialement, et finalement qui a été abandonné parce qu'il n'y avait pas de consensus au sein des États membres. Avant d'être mis en place en France, sous une version un peu rabotée, et qui rapporte pour certaines composantes de la taxe zéro chaque année, puisqu'elle a eu pour effet de déplacer les transactions financières à l'étranger.
Celle-là, pour bien la vendre, elle rapporterait 4 milliards.
Oui, elle rapporterait 4 milliards, mais encore une fois, avec l'unanimité, et en plus sur un postulat qui est que la taxe n'aura pas d'effet sur les comportements. Alors qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle imposition, on voit bien que les agents économiques adaptent leur comportement, la localisation de leurs opérations. Voilà, c'est des opérations qui sont transfrontalières, numériques. C'est très simple de les déplacer sur une plateforme qui ne relève pas du champ d'application de la taxe.
Oui, vous avez raison, effectivement, ça influe directement sur la façon dont on gère ces cryptos. Ça, c'est tout à fait vrai. Julie Bader, la fin de la période MiCA, on sait que votre cabinet de Gaulle-Florence accompagne beaucoup les acteurs dans ces dossiers. Le compte à rebours prend fin 1er juillet, en 3 semaines. On en est où ? Est-ce qu'il y a encore des chances pour certains acteurs ? Est-ce qu'il y a encore des dossiers en cours ou les chiffres sont arrêtés ?
Non, là, on est, on va dire, dans la dernière ligne droite, mais vraiment dernier sprint, que ce soit pour les acteurs, mais aussi pour l'autorité des marchés financiers en France, qui est extrêmement mobilisée pour faire passer un maximum de dossiers avant la fin de cette période transitoire. Donc, c'était une période d'un an et demi, hein, quand même, avant l'entrée en application full de MiCA. De ma compréhension, des échanges que j'ai eus avec l'ADAN notamment, on serait à 30 dossiers MiCA encore en examen au sein de l'AMF.
Alors qu'on en a à peu près 16 qui sont passés là ?
Exact. Alors 19, on a 19 ouais. Qui ont été passés et à peu près la moitié devrait obtenir son agrément MiCA d'ici le 30 juin et ensuite les autres devraient pouvoir les suivre rapidement.
Il y aura un délai entre guillemets de suivi des dossiers, encore une petite période de politesse après ça ?
Je ne pense pas qu'il y aura une période de tolérance. Par contre, dans tous les cas, l'AMF va continuer d'instruire les dossiers. Ça, c'est certain. Elle ne va pas s'arrêter d'instruire les dossiers au 30 juin, puisqu'on peut continuer de demander un agrément MiCA après cette date du 30 juin. Mais effectivement, certains acteurs ne vont pas l'obtenir dans les délais. Et c'est cette période-là qui va être un petit peu charnière. On va voir comment ça va se passer. Il va falloir voir avec les autorités, voir aussi avec les clients de ces prestataires, comment on va gérer cette période-là.
Est-ce que l'AMF a conscience que les 3/4 des boîtes vont rester sur le carreau ?
Oui. Ouais, oui, totalement conscience. Bien sûr, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. L'ensemble des PSAN ont été interrogés. On leur a demandé s'ils pensaient obtenir MiCA, dans quelle mesure, à quelle date ils pensaient déposer le dossier MiCA, etc. Mm-hmm. En tout cas, tous les acteurs, les PSAN enregistrés, ont été interrogés par l'AMF. Et en fait, après, c'était à ceux qui ont déposé le dossier qu'on a donné les directives pour obtenir le plus rapidement l'agrément MiCA.
Alors moi, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer si, par exemple, des acteurs veulent rester sur le marché, veulent continuer à exercer. Qu'est-ce qui peut se passer pour eux ?
Les acteurs qui ne sont pas agréés MiCA ?
Oui.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Aujourd'hui, c'est pas possible. On ne peut pas exercer de services sur cryptoactifs en France et dans l'Union européenne sans cet agrément MiCA. Et donc, c'est du pénal hein, quand on fournit des services sur cryptoactifs sans avoir cet agrément. Donc, le risque est quand même assez important pour les personnes qui vont continuer à fournir des services. Il y en aura peut-être hein, qui vont le faire, je ne sais pas. Mais c'est du pénal. Donc, il y a quand même des risques importants.
Votre suite d'activités, à vous, une fois que cette période-là sera passée, vous allez faire quoi pour les boîtes crypto ? Partie crypto de De Gaulle-Florence va s'attaquer à quoi maintenant ?
Alors, De Gaulle-Florence, dans notre pratique fintech, on ne fait pas que des agréments MiCA. On oui. accompagne aussi les institutions bancaires, de manière générale, sur tous les volets fintech. Donc, il y a l'IA, il y a de la blockchain, il y a les agréments, effectivement, MiCA, mais on a tous les agréments établissement de paiement. On a aussi tous les acteurs de la finance fintech qui vont aller sur la finance traditionnelle. Donc, on les accompagne aussi sur ces agréments. Je pense qu'on n'est pas à bout de notre travail. En tout cas, on n'est pas encore au chômage.
Vous allez avoir de quoi faire. J'avais préparé cette question et vous en avez parlé juste avant. Et je trouve que c'est très intéressant, finalement, en toute cordialité, de confronter vos points de vue à tous les deux sur la suite du secteur. Enzo, vous avez une boîte crypto qui ne va pas passer MiCA. Vous l'avez dit, vous l'avez annoncé officiellement. Et Julie, vous faites passer, justement, vous avez fait passer ces agréments et à toutes les boîtes crypto qui le demandaient. fait. Et vous n'avez pas la même vision, effectivement, de la suite du secteur et de la réglementation et des conséquences que ça a sur le domaine de la crypto. Je vais commencer par vous, Enzo. Pour vous, évidemment, cette situation, elle est compliquée. Et je le disais tout à l'heure, 75% des boîtes vont disparaître. Donc, c'est un secteur, en grande partie, qui est en train de disparaître.
Il y a plusieurs éléments. Moi, je dirais que ce qui est déjà plus étonnant pour des acteurs un peu historiques, parce que ça faisait quand même 6 ans que j'étais sur ce marché-là, c'est que, à l'origine, ceux qui n'en voulaient absolument pas, aujourd'hui, l'ont réglementé pour ceux qui n'en voulaient pas. C'est-à-dire que les banques et l'AMF, qui ne voulaient pas vraiment entendre parler de tout ça il y a encore quelques années, aujourd'hui, ont réglementé tout ça pour des grands acteurs institutionnels plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que conseiller indépendant, à moins de pouvoir lever 1 million, enfin, en tout cas, nous, notre but, c'était d'être dépositaire et faire du passage d'ordre pour compte de tiers, c'est environ, je pense, entre 1 million et 1 300 000 pour pouvoir le passer, parce qu'il faut un modèle qui est logique, puisque on voit les problématiques en termes de cybersécurité, on détient l'argent de nos clients chez nous, donc forcément on a un risque pénal et c'est très important qu'on passe par toutes ces étapes réglementaires et cyber. Ça, c'est pas ce que je défends. Enfin, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est le rythme et par rapport à la quantité de clients ou de travail qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une activité qui est assez restreinte et je peux très bien vivre avec quelques clients. Monter un modèle à plus d'un million pour gérer quelques clients, ça n'a aucun sens.
Parce que c'est ce qui est demandé pour aujourd'hui être un acteur solide du secteur.
Que vous ayez 100 000 ou que vous ayez 10 clients, vous devez avoir Mika et vos processus doivent être à peu près les mêmes, on va dire. Vous pouvez bien sûr adapter et avoir une courbe de progression, mais ça fait qu'aujourd'hui, c'est plus possible de travailler. Et donc, on a Mika, on parle déjà de Mika 2. Quand il y aura Mika 2, on parlera de Mika 3. Et en fin de compte, on a des trajectoires qui sont impossibles à définir. On n'aura pas de Silicon Valley de la blockchain en Europe et encore moins en France, c'est clair. Donc aujourd'hui, pour beaucoup d'acteurs, c'est est-ce que je continue de m'empaler contre un mur qui va toujours me mettre des bâtons dans les roues, même si c'est justifié ou non ? Ou est-ce que, j'arrête pas tout de suite et je vais pas voir ce qui se passe ailleurs? Parce qu'en fait, il y a des modèles qui nous permettent de pouvoir aujourd'hui travailler beaucoup plus rapidement avec le même niveau de professionnalisation.
Après, on disait une époque, quand les banques se mettront à la crypto, ce sera le secteur qui aura atteint sa maturité. C'est à la fois ce que les acteurs voulaient, c'est-à-dire être pris au sérieux. Et aujourd'hui, on y est et ça fait disparaître tout
ça. C'est très positif pour le secteur. Moi, ce que je trouve assez négatif, c'est l'impact que ça a sur les acteurs et le fait que ça resserre un petit peu le nombre d'acteurs. On a moins de concurrence. Donc des produits qui seront probablement de moins bonne qualité, des politiques tarifaires qui seront plus élevées. Plus on a de concurrence, plus on a un marché qui est sain. Là, on va avoir une petite période où ça va être un petit peu compliqué. Nos clients ne savent pas vers quel autre acteur aller. C'est vrai que ça crée quand même pas mal de complexité aujourd'hui, en tout cas.
Julie, votre avis sur cette évolution du secteur et cette prise en main finalement par les gros acteurs de la finance ?
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément en phase sur l'approche. Peut-être pour revenir quand même d'abord à la genèse de la réglementation, c'est l'AMF et notamment Anne Maréchal, qui est un de mes associés au sein du cabinet de Gaulle-Florence, qui a été à l'origine de cette réglementation en écoutant les acteurs qui demandaient à être régulés. Il faut aussi reprendre un petit peu l'origine de cette réglementation. C'était une demande des acteurs qui voulaient rentrer dans ce monde régulé. Alors, la blockchain, on a deux types d'acteurs, les libertaires, ceux qui veulent être régulés. Évidemment, ça vient se confronter. Mais c'est la maturation du marché, et ça, vous en avez parlé, la réglementation, elle est là aussi pour donner de la confiance dans les acteurs qui vont gérer de l'argent, qui vont gérer beaucoup d'argent et l'argent de leurs clients. Donc c'est aussi, très logique qu'on ait de la réglementation qui s'applique. Mika, c'est très peu éloigné de MiFID, c'est très peu éloigné de la réglementation qui existe en matière bancaire, en matière financière. Ça vient donner de la confiance et surtout de la sécurité pour les acteurs et pour les investisseurs. Alexandre en a parlé, on donne beaucoup de données très personnelles quand on fait de l'investissement financier, notamment de l'investissement en crypto. Si on n'a pas des services d'information qui sont extrêmement sécurisés, encadrés par DORA, des personnes pour contrôler, c'est compliqué aussi de donner de la confiance dans les acteurs et aussi de protéger les personnes. Parce que s'il y a des hacks, ça va être très facile aussi d'aller chercher ces personnes-là. Donc nous, sur la réglementation, on pense que c'est une bonne chose et ça vient assainir le marché. Alors oui, ça vient resserrer les acteurs, mais je dirais que c'est un peu l'histoire logique dans tous les marchés. On a des acteurs, des leaders qui vont se créer. Alors on en a en France, mais on en a aussi en Union européenne. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que Mika, contrairement à MiFID, c'est un règlement européen qui s'applique uniformément au sein de l'Union européenne. Et donc on a des concurrents qui viennent d'autres pays. Et donc, pour moi, ça vient aussi assainir le marché et créer un marché européen. Et nous, on a des acteurs, on accompagne Bitstack notamment, qui sont en France, qui sont implantés en France. Ça devient une énorme entreprise, ils ont levé des fonds et ils vont pouvoir se déployer dans toute l'Union européenne grâce à Mika.
Oui, faire des géants européens.
La problématique pour moi, c'est que ça reste des produits financiers et qu'un acteur Mika, par définition, vend des cryptos. ils ne les conseillent pas. Quand on a un client qui vient vers moi et qui me dit, voilà, j'ai un petit peu d'argent, je voudrais investir, mon métier, ce n'est pas de lui vendre des cryptos, c'est de lui conseiller sur l'allocation d'un portefeuille. Aujourd'hui, un client va chez un fournisseur futur MiCA, ben, en fait, il va se voir offrir les produits du prestataire, qu'ils soient adaptés ou non à son profil. Pour moi, ça ne protège pas tout à fait beaucoup mieux le client, hormis bien sûr sur ces problématiques de cyber. Parce qu'effectivement, nous, avant qu'on lance notre appli, avant qu'elle soit live, on avait 10 000 tentatives d'intrusion sur nos serveurs par jour, alors que l'appli n'était pas encore live. Donc bien sûr, cette cybersécurité est extrêmement importante, et en plus, on a du pénal. Mais en fait, du coup, ça fait qu'on a chassé-croisé sur les besoins de financement qu'on a, le temps que ça prend, le besoin humain, parce que, en fait, du coup, ce genre de société se gère à au moins 5-6 personnes minimum. Mm-hmm. 5-6 personnes par an, c'est 400-500 000 euros de charges. Rien que ça, voilà, vous avez un demi-million à mettre dans des charges de personnel, alors que vous n'avez pas encore de produit en face.
Alexandre.
Oui, alors de ma compréhension, je crois que les activités de conseil aussi ont pris un peu une balle perdue avec MiCA, parce qu'il me semble que c'est plus simple d'exercer une activité de conseil en matière de titres financiers que de conseil en matière de cryptoactifs. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'est que, enfin, moi aussi je trouve que c'est bien d'avoir une réglementation. Le problème, c'est que le régulateur français, de mon point de vue extérieur de fiscaliste, donc je ne suis pas du tout de réglementation financière, mais a pas saisi le moment, quoi, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on était hyper en avance sur la réglementation PSAN, parce qu'on avait des règles discriminantes par rapport aux autres. Et quand on a eu les mêmes règles, finalement, on n'a pas réussi à mettre d'autres avantages discriminants. Et donc, on s'est fait un peu dépasser sur le côté par différentes juridictions. Et on se retrouve avec la perte d'acteurs quand même majeurs pour cet écosystème. Et le dernier point, ce que me font remonter mes clients, surtout ceux qui font du trading de manière assez intensive, c'est qu'il y a... On constate un déplacement de la liquidité sur les plateformes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la liquidité est fractionnée entre les différents marchés et qu'en façade, on a les grosses plateformes en Europe, mais quand on creuse finalement, la liquidité qui est sur les marchés européens est vraiment ridicule, tellement ridicule que un trader aujourd'hui en Europe ne peut pas trader sur la plateforme de telle plateforme version européenne. Quoi.
Julie, pour finir.
Oui, peut-être pour apporter une sorte de conclusion sur ça, c'est qu'effectivement, on a beaucoup critiqué la réglementation. Effectivement, ça vient bloquer les marchés. Les États-Unis font pareil. On a le Clarity Act qui arrive, qui est fortement inspiré de MiCA. Je pense qu'il va aussi y avoir une harmonisation au niveau mondial de la réglementation. Et donc, sans doute, les grandes plateformes qui, effectivement, hors de l'Union européenne, ont énormément de liquidités, vont aussi devoir se mettre au même niveau. Et peut-être qu'on aura un rééquilibrage du marché par rapport à ça. Et pour reprendre sur la partie conseil, la partie conseil est importante. Et certains de nos clients qui font du trading font également du conseil. Mmh. Donc, on a quand même aussi cette protection des investisseurs. Et donc, les investisseurs ont le choix de soit s'adresser à des clients, enfin, des prestataires qui fournissent du conseil ou non. Donc ça, pour le coup, permet d'apporter une petite nuance. On a des acteurs qui font du conseil en crypto qui ont obtenu l'agrément MiCA.
Pour finir, on a cet agrément MiCA qui a été donné et qui a été imposé aux acteurs du secteur, aux entreprises du secteur, notamment pour effectivement limiter le risque cyber, parce que c'est une vraie garantie par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Et parallèlement, on lance la DAC 8 qui va mettre en danger et qui va nous obliger à donner des informations à l'administration qui se fait hacker en permanence. Quelle est la cohérence là-dedans pour vous, Alexandre ? C'est une incompréhension des politiques, c'est un décalage, c'est quoi ?
Je pense que c'est clairement un décalage, parce que... Et puis, une question de timing aussi, hein, quand ça a été créé, enfin, quand le modèle OCDE a été discuté, dont s'inspire le modèle européen, on n'avait pas cette vague d'agression. Mais là, clairement, c'est un décalage, parce que même... Voilà, on sait tous le niveau d'information qui va remonter, puisque toutes les transactions, les identités seront remontées aux États. Ce qu'on sait moins, c'est que il est prévu un registre centralisé tenu par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on passe d'échanges bilatéraux, jusqu'à présent l'échange automatique d'informations se faisait d'État membre à État membre, à une transmission de chaque État membre à un registre central chez la Commission européenne qui subit des fuites au moins une fois par an. Mmh. Donc c'est très inquiétant. Il y a des mesures de chiffrement, de gestion des accès qui sont quand même sérieuses. Mais le fait d'avoir des données hébergées au même endroit, en fait, et une aberration, en fait, sur le plan technique, au regard des risques qu'on a eus depuis quelques années.
Julie,
Ah oui, tout à fait d'accord. On a eu le même sujet, nous, avec TFR, donc la réglementation sur les transferts, où on doit partager toutes les identités des personnes qui font des transferts. Et là-dessus, je pense qu'il y a, pour le coup, des réflexions à avoir, même d'un point de vue surtout technologique et d'interopérabilité entre les acteurs, pour trouver des solutions pour ne pas centraliser les données et les transférer, ou en tout cas avoir des moyens de protéger les données beaucoup plus efficacement.
Vous disiez, c'est la fin de l'émission, vous disiez tout à l'heure qu'on avait quand même eu un an et demi, les entreprises avaient eu un an et demi pour se conformer à MiCA. Effectivement, c'était quand même une période assez importante pour le coup. Est-ce que vous pensez que les prochaines réglementations vont prendre en compte ces nuances, ces risques-là qui ont été créés par les premières ?
Oui, je pense. Alors, moi, je suis assez quelqu'un d'assez optimiste. Donc, on va le rester. On a une consultation MiCA, effectivement, qui a été lancée. C'est assez tôt, après l'adoption d'un règlement qui date de 2023, mais qui va permettre de faire des ajustements, parce que effectivement, il y a des ajustements qui sont nécessaires sur la réglementation. Moi, je suis tout à fait en phase avec ça. Et donc, on a cette consultation qui est ouverte aux acteurs, aux professionnels, mais aussi au grand public. Donc, j'espère. Et nous, on va y contribuer au sein du cabinet pour faire améliorer la réglementation, que la nouvelle réglementation aura un peu moins d'obstacles pour les acteurs.
Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission discuter de l'avenir du secteur. Ça évolue tous les jours, on le constate sur ce plateau. Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine, Julie Bader, avocate chez De Gaulle, Florence, Alexandre Louremi, partenaire chez Orwell. Merci d'être venus dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer, BFM Bourse. Passez une bonne après-midi sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.